et c'est le journal de Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une aide à mourir strictement encadrée. Emmanuel Macron esquisse les premières lignes du projet de loi du gouvernement sur la fin de vie.
Que va-t-il advenir de la directive européenne sur les travailleurs des plateformes numériques ? Un ultime vote des 27 États membres de l'Union européenne doit avoir lieu aujourd'hui.
Le ramadan débute aujourd'hui sans accord de cessez-le-feu à Gaza. Et c'est un mois sous haute tension qui s'annonce. Reportage dans la vieille ville de Jérusalem.
13 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, l'État japonais tente d'effacer les séquelles de l'accident.
Enfin, quand l'opéra rencontre l'art contemporain, ça promet du grand spectacle. Louis-Valentin Lopez a pu assister aux essayages de Saint-François d'Assise, opéra d'Olivier Messiaen, mis en scène par le plasticien Adèle Abdessemed. Et juste après ce journal, c'est votre question du jour, Marguerite Caton.
Éducation à la sexualité, quel est le programme ?
Emmanuel Macron détaille donc ses propositions sur la fin de vie dans une interview accordée aux journaux La Croix et Libération. De quoi donner pour la première fois une idée de la direction que veut prendre le gouvernement sur ce sujet. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour.
Pas d'euthanasie, pas de suicide assisté, mais une aide à mourir strictement encadrée.
Voilà, ne dites pas euthanasie parce que le consentement du malade est nécessaire. Ne dites pas suicide assisté non plus puisqu'il n'y a pas de choix libre et inconditionnel du malade. Voilà en tout cas ce qu'affirme le chef de l'État, qui assure qu'il s'agit d'une loi de rassemblement et de fraternité. Je cite un président qui veut visiblement dépassionner le débat. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit, dit-il encore. Dans le texte, l'aide à mourir est réservée aux personnes majeures capables d'un discernement plein et entier. Les malades psychiatriques ou atteints de maladies neurodégénératives type Alzheimer sont donc exclus. Il faut être atteint d'une maladie incurable et avoir un pronostic engagé à court ou moyen terme avec des souffrances que l'on ne peut soulager. L'une des grandes questions est celle du rôle du personnel soignant sur la décision et le geste. Une bonne partie est réticente. Si le malade demande l'aide à mourir, une équipe médicale décidera collégialement dans les 15 jours de la suite à donner à cette demande. La prescription est valable 3 mois et la personne peut se rétracter à tout moment. C'est le malade qui s'administre la substance létale, sauf si cela lui est impossible physiquement. Ce serait alors un proche, le médecin ou l'infirmier qui l'accompagne. Voilà pour le texte qui comporte également un volet soins palliatifs, une stratégie décennale avec une enveloppe d'1,5 milliard d'euros.
Mais quel calendrier pour ce texte, Nicolas ?
Alors, présentation en Conseil des ministres le mois prochain et première lecture à l'Assemblée nationale au mois de mai. Pas de procédure accélérée, affirme le chef de l'État qui veut laisser du temps à la représentation nationale, notamment en commission, c'est-à-dire que ce texte peut en réalité être largement amendé et longuement discuté. Ensuite, eh bien, liberté de vote selon sa conscience, dit le chef de l'État. Le sujet est en effet transpartisan et il peut donc passer, mais aussi être âprement débattu entre ceux qui estiment qu'il s'agit bel et bien d'euthanasie qui ne dit pas son nom et qui l'ouvre une boîte de Pandore, la loi ne couvrant jamais tous les cas, et puis ceux qui estiment que ce texte est trop flou et ne va pas assez loin.
Merci Nicolas Ballu. Je vous propose d'écouter la réaction de Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Et pour lui, les annonces d'Emmanuel Macron sont insuffisantes.
Enfin, Emmanuel Macron a présenté un projet de loi et a présenté un calendrier sur ce projet de loi. Et ça faisait plus d'un an que nous l'attendions. Ensuite, il y a la vigilance, parce qu'il y a encore beaucoup de choses dans ce projet de loi qui ne nous conviennent pas. La première chose qui peut pêcher, c'est une absence de liberté de choix. Entre le suicide assisté, la personne fait elle-même le geste, et l'euthanasie, c'est un tiers ou un soignant qui fait le geste létal à sa demande. La deuxième condition, qui est beaucoup trop restrictive, c'est le pronostic vital engagé à moyen terme. Qu'est-ce que le moyen terme ? Est-ce que ça va être un pronostic vital engagé à 6 mois, à 12 mois ? Et que va-t-on répondre aux personnes qui auraient un pronostic vital engagé à 14 mois, il faut souffrir encore un peu, encore 2 mois avant de pouvoir accéder à une aide à mourir. Tout ça n'est absolument pas imaginable. Et une loi qui ne serait pas amendée ou améliorée par les parlementaires sur ces conditions, ce serait une loi qui obligerait encore des Français à partir à l'étranger, alors que cela fait plus de 40 ans que nous discutons de tout cela.
Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, joint par Servane de Pastre. Gabriel Attal se rend à Arras aujourd'hui à l'occasion de la journée annuelle en hommage aux victimes du terrorisme et dont la cérémonie se déroulera donc hors de Paris pour la première fois. Une délocalisation voulue par le Premier ministre en hommage au professeur Dominique Bernard assassiné devant le collège lycée Gambetta à Arras. C'est l'heure de vérité pour la directive européenne sur les travailleurs des plateformes numériques. Les ministres du Travail des 27 États membres se réunissent aujourd'hui pour un ultime vote sur ce texte. Cette nouvelle règle est censée permettre à ces travailleurs indépendants, comme les livreurs à vélo ou les chauffeurs VTC, d'obtenir plus facilement le statut de salarié s'ils en font la demande. Après s'y être longtemps opposé, la France pourrait finalement voter le texte qu'elle a pris soin de détricoter une dernière fois. Une manœuvre pour enterrer définitivement le texte, selon Leïla Chebbi, eurodéputée présidente du groupe Les Insoumis au Parlement européen.
Il y a une réelle volonté de sabotage, là. On avait un accord qui n'était pas la panacée, mais qui améliorait les choses. Il y avait 23 États membres sur 27 qui étaient convaincus. Que fait la France, alors même qu'il y a eu un accord de trilogue, donc le 8 février dernier, elle rédige un nouveau texte. L'objectif de Uber, de ses relais, et donc en premier lieu d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte qu'on ait une directive qui mette des critères tellement contraignants pour être considéré comme salarié, que demain les juges, quand ils vont être confrontés à cette situation, eh ben ils diront, ben oui, mais je vous aurais bien requalifié, moi, vous êtes subordonné de mon point de vue, mais il y a une directive européenne maintenant qui me dit que vous pouvez pas être considéré comme salarié. Ça se fait pas, en fait. Le texte qui fait foi, c'est le texte de l'accord tel qu'il a été conclu entre le Parlement d'un côté et le Conseil. Sachant que pour le modifier, et ça la France le sait très bien, il faut reconvoquer un trilogue entre le Parlement, le Conseil, puis avec la Commission en arbitre. Clairement, on sait qu'il n'y aura rien d'ici la fin de la mandature pour des questions de calendrier, parce qu'il y a des élections européennes le 9 juin et que la dernière plénière du Parlement a lieu au mois d'avril, et donc on serait hors délai en fait. Donc c'est du sabotage, c'est du torpillage, donc jusqu'au bout et depuis 5 ans dans cette histoire, Macron défend les intérêts d'Uber au détriment de l'intérêt des travailleurs.
L'Europe pourrait être confrontée à des situations catastrophiques si elle ne prend pas la mesure des risques climatiques qu'elle encourt, alerte l'Agence européenne de l'environnement, qui précise que beaucoup de ces risques sont déjà à un niveau critique. Dans son premier rapport sur l'évaluation des risques climatiques en Europe, l'agence répertorie 36 risques majeurs, avec au premier rang les risques liés aux écosystèmes marins et côtiers.
7h07 sur France Culture, c'est la suite du journal de Laura Dulieu. Le ramadan débute aujourd'hui et au Proche-Orient, c'est un mois très tendu qui s'annonce.
L'accord de cessez-le-feu à Gaza était espéré avant le début du jeûne musulman, c'est raté. Tandis qu'à Jérusalem, un endroit concentre toute l'attention, l'esplanade des mosquées avec le troisième lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. Le Hamas appelle les musulmans palestiniens à marcher sur Al-Aqsa. L'opération du 7 octobre portait le nom de déluge d'Al-Aqsa. L'atmosphère est donc particulièrement tendue dans la vieille ville de Jérusalem. Thibault Lefebvre s'y est rendu.
Les premiers filtrages sont installés aux portes de la vieille ville. Pendant un mois, un millier de policiers sont mobilisés la semaine, 2500 le week-end sur un espace de moins d'un kilomètre carré. Aux entrées de l'esplanade des mosquées que les juifs appellent le mont du temple, les hommes les plus jeunes sont bloqués, le tri se fait au faciès, alors la prière s'organise à l'extérieur. Mohamed, la trentaine, installe son tapis dans une ruelle.
C'est très important pour nous d'aller à l'intérieur et de prier. Il y a beaucoup de gens qui viennent pendant cette période du nord de la Cisjordanie occupée pour prier. Ils t'empêchent d'entrer et ils prient donc dehors. Ça va les mettre en colère et ils vont très mal le vivre.
Seuls les plus anciens sont autorisés pour le moment à accéder à l'esplanade des mosquées. Hajj Mohamed fait ses ablutions et se prépare à la prière.
Moi, j'ai 77 ans. En ce moment, les jeunes ne peuvent pas entrer ici. L'accès dépend de l'humeur des policiers israéliens postés aux portes de la mosquée. Ils ne respectent ni les jeunes, ni les vieux. À mon âge, ça m'est arrivé qu'ils me disent « dégage d'ici ».
Ces restrictions et surtout l'attitude de la police pourraient donc attiser une situation déjà inflammable. Pendant au moins la première semaine du Ramadan, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de ne pas durcir les règles.
Thibault Lefebvre. Hier à Gaza, les bombardements israéliens ont encore fait plusieurs dizaines de morts, tandis que la communauté internationale tente d'envoyer de l'aide à la population frappée par la famine. Dans le cadre d'un corridor maritime annoncé par l'Union européenne, un premier navire chargé de 200 tonnes de nourriture s'apprêtait hier à quitter Chypre pour l'enclave palestinienne assiégée par Israël. Le Portugal vire à droite après la très courte victoire du centre droit aux élections législatives devant les socialistes au pouvoir depuis 8 ans. Élection marquée surtout par une forte poussée populiste. Vous pouvez réécouter à ce sujet les enjeux internationaux de France Culture. Le 11 mars 2011, un gigantesque tsunami tuait plus de 18 500 personnes au nord-est du Japon. Près de 4000 autres sont décédés a posteriori. Des villes entières ont été intégralement vidées à cause de l'accident nucléaire à la centrale de Fukushima. 13 ans ont passé et à Futaba, ville où se trouve le site atomique, seule une soixantaine de personnes vivent encore sur place. C'est 100 fois moins qu'avant, tandis que l'État japonais tente d'éliminer les séquelles de l'accident. Karine Nishimura.
Ville quasi déserte de Futaba, dont les bâtiments, je traque les traces encore visibles du drame. À l'intérieur de l'hôpital abandonné, surprise.
Ils ont tout débarrassé, alors qu'il y avait encore les brancards.
Fauteuil roulant, chaises, oreillers, serviettes, ici restaient pourtant en vrac les objets témoins du départ précipité du personnel et des patients en mars 2011.
Il n'y a plus rien.
École maternelle, maison, magasin, tout est petit à petit rasé. Car désormais, le mot d'ordre de l'État, c'est reconstruction.
Cette usine est le symbole de la reconstruction de Fukushima.
Nasami Asano, patron de l'entreprise de textile Super Zero Mill, installée à Futaba, au milieu de nulle part, sur demande et aux frais du gouvernement.
Quasiment toute la ville a été irradiée. Redonner vie à une agglomération qui n'a pas été habitée pendant 11 ans et demi est un défi inédit à l'échelle mondiale. Mais le Japon est doué pour la reconstruction.
Et l'homme d'espérer des centaines de milliers de visiteurs par an.
L'objectif est 500 000 personnes par an. C'est jouable dès l'année prochaine. Un grand hôtel de loisirs est prévu.
Il sera à moins de 3 km de la centrale en zone inondable, ouverture en 2025. Pour cette jeune employée de l'entreprise, la centrale n'est pas un problème. Elle préfère ne pas trop y penser.
Pour moi, c'est le dynamisme de la ville qui compte.
Le patron non plus n'est pas inquiet, il considère même la centrale comme un élément pour attirer des visiteurs.
TEPCO, le gouvernement et la ville de Futaba veulent que le monde puisse voir ce chantier unique de démantèlement conduit de façon extrêmement sûre.
Et ce, bien que nul ne puisse garantir l'absence totale de danger lors des travaux sur ce site atomique à la merci des séismes et tsunamis.
Karine Nishimura. Après sa palme d'or en mai dernier et ses nombreuses récompenses depuis, Justine Triet termine sa folle course avec un Oscar, celui du meilleur scénario pour Anatomie d'une chute. Mais malgré 5 nominations en tout, rien ne résiste au rouleau compresseur Oppenheimer, sacré meilleur film, meilleure réalisation pour Christopher Nolan, meilleur acteur pour Cillian Murphy, statuette en tout. Quant à l'Oscar de la meilleure actrice, il est pour Emma Stone pour son rôle dans Pauvre créature. Retour sur la cérémonie dans le journal de 8h. On termine avec une rencontre, celle entre l'opéra, un grand nom et un grand nom de l'art contemporain. C'est le mois prochain au Grand Théâtre de Genève avec Saint-François d'Assise, opéra du compositeur Olivier Messiaen, mis en scène par le plasticien Adel Abdessemed. L'artiste franco-algérien chapeaute la mise en scène mais aussi les costumes qu'il a entièrement imaginé. Louis-Valentin Lopez a pu assister en exclusivité aux essayages dans l'atelier parisien d'Adèle Abdessemed.
Je peux le remonter le costume peut-être ?
Ah oui, 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 s'il te plaît. Merci, à l'attaque.
C'est le moment où l'œuvre d'art prend vie, où elle quitte l'esprit d'Adèle Abdessemed pour s'incarner sur les solistes de l'opéra. Un univers qui était étranger à l'artiste plasticien.
Je ne comprenais pas le langage un peu qui appartient à cette institution que je ne connaissais pas. La mise en scène, costume, dramaturge, lumière, tout ça, moi je ne connais pas ça.
Adèle Abdessemed s'est donc immergée dans l'opéra de Messiaen, œuvre magistrale, dit-il, qui lui a inspiré des costumes évoquant les nomades, les vagabonds, mélange de lainage, patchwork de coton. Caroline Svanda veille aux dernières retouches.
Plus loose.
Pour celle qui collabore avec les maisons de haute couture, c'est un travail passionnant, transcrire une vision d'artiste.
Nous, on a des contraintes intérieures de portée, de bien-être, d'équilibre, de vêtements. Lui, il doit voir une enveloppe extérieure qui correspond à sa volonté et à son croquis. Voilà,
voilà, c'est bon.
Je fais d'abord capter les émotions, en tous les cas, avant la pensée. C'est la chose la plus importante. Avant de commencer à réfléchir, je préfère de capter l'émotion.
L'artiste va incorporer des éléments intimes, autobiographiques, des projections vidéo aussi pour faire de la représentation un art total.
J'ai fait des nouvelles vidéos spécifiquement pour chaque tableau. Des vidéos qui parlent d'Hélode, le prêche d'oiseau, c'est remplis d'oiseaux, donc des choses comme ça, tout un montage. Voilà, mais après, c'est la surprise.
Des surprises dévoilées donc le mois prochain à Genève, gardées secrètes par celui qui multiplie les casquettes, mais qui, dans une autre vie, nous confie-t-il, se serait bien vu compositeur.
Louis-Valentin Lopez. 6 départements sont toujours placés en vigilance orange crue dans le centre et le sud de l'Hexagone. Il pleut sur un grand tiers sud du pays et comptait ce matin entre 2 et 7 degrés à l'intérieur des terres, jusqu'à 9 près des côtes.